Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Présent 56, on va jaser avec notre chroniqueur Denis Julien. D'ailleurs, les gens qui se demandaient est-ce que Yann Sénéchal est encore avec vous autres? Oui, en alternance avec Denis, mais Yann a pris des petites vacances.
Oui.
Donc, il devrait revenir la semaine prochaine. Mais là, on est rendu autour à M. Denis Julien, que je salue bien bas. Bonjour, M. Julien, comment ça va?
Ça va très bien, je vous salue également.
Jason, inflation, Jason, taux d'intérêt et évidemment, je pense que tu voulais inclure l'Iran dans la discussion, ce qui n'est pas totalement fou.
Oui, mais c'est on entend quand même parler beaucoup de food professor, entre autres sur vos ondes.
Oui.
Ils parlent souvent d'inflation alimentaire.
Qui au Québec est assez saucé, là.
Oui, oui, oui. Entre autres parce qu'on a des rigidités qui nous sont propres, là. Puis ça fait augmenter, disons, seulement le coût de distribution et de production il fait pour nous. Fait qu'on a des effets pires qu'ailleurs. Mais en gros, ce que je voyais, c'était tout ce qui commençait à s'écrire qui montrait que si ça perdurait, si ça durait plus longtemps, si c'était plus difficile, malgré que ça semble se détendre dans les deux derniers jours en Iran. Il n'y avait pas juste le pétrole qui était un intrant dont on avait à se préoccuper. Il y avait également d'autres choses. Par exemple, des engrais. Moi, j'apprenais à quel point le Moyen-Orient, cette région-là, il y avait des pays qui étaient de très, très gros producteurs d'engrais. Puis si ça ne pouvait pas se rendre à temps, si ça ne pouvait pas sortir, tu aurais de la misère pour les récoltes. Ben, oui. Parce que tu avais de la misère pour la semence.
Il y a beaucoup de choses. Tu parles d'engrais, ça peut être aussi de la bouffe pour les animaux, ça peut être des pesticides. Il y a beaucoup de choses intégrées dans la chaîne dont à quoi on pense pas toujours. Là, mais tout ça fait partie de l'inflation puis du jeu. Là.
Oui, puis les marchés obligataires tendent à laisser voir qu'ils n'ont pas tant confiance que ça qu'on puisse garder, dans les 2% qu'on essaie de viser, les augmentations du taux de croissance des prix. Puis, en gros, je voulais revenir un peu sur... Pourquoi c'est mauvais l'inflation? C'est parce que Vincent, des fois, vous l'amène, il dit, tu sais, les prix, c'est un signal, là. Tu peux pas empêcher les prix d'augmenter, c'est comme de frapper sur le thermostat.
Ouais.
T'as besoin d'apprendre qu'est-ce que ça te donne comme message. Par exemple, t'as deux biens qui se ressemblent, le beurre et la margarine, puis s'il y en a un qui devient beaucoup moins cher que l'autre, le prix va te donner l'indication qu'est-ce que les gens vont avoir décidé d'acheter, puis où est-ce que les producteurs, par la suite, ont intérêt à concentrer leurs ressources. Cette information-là, elle est vitale. Quand l'augmentation générale du niveau des prix, l'ensemble des biens, ben, cette information-là, elle se perd dans l'ensemble des hausses. Et quand tu as quelque chose qui vient du fait que la demande a été boostée parce que tu as baissé trop les taux d'intérêt, ça, c'est un problème. Tu montes les taux d'intérêt, tu ralentis la croissance, tu ralentis la demande. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans quelque chose qui est plus dommageable. Ça s'appelle un choc d'offre. L'offre, par exemple, d'un manufacturier est déterminée par ses coûts de production, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit des intrants comme le pétrole ou encore pour l'agriculteur, les engrais. Ça, si tu dis, ben écoute, à production égale, ça va me coûter beaucoup plus cher qu'avant produire et je vais refiler une partie de ça au consommateur. Tu n'auras pas le même nombre de consommateurs au nouveau prix qui vont acheter. Fait que tu as à la fois une augmentation des prix d'un tas de denrées et en même temps une baisse de production.
Une baisse de demande, ben oui.
Alors, la Banque centrale, elle te dit, moi, en général, ce que je vise, c'est de garder l'augmentation du niveau des prix à vitesse de 2% par année. Mais elle tient compte également du ralentissement économique qu'un choc d'offres peut amener. Parce que le choc d'offres, c'est pas comme la demande. C'est quelque chose de... Tu recules ta production et tu vas avoir des prix plus élevés, donc ton économie ralentit. Là, la Banque centrale, elle dit, il y a des fois, par exemple, dans certains cas, où je ne ferai rien parce que l'augmentation des coûts est annulée par une baisse de la production. Donc, mon économie n'est pas en train de s'emballer, c'est même l'inverse.
Tu as des gens qui vont payer le prix de ça, mais c'est pas global. C'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui est un peu isolé, c'est un peu ça?
Bien, normalement, c'est au lieu d'être un taux de croissance du niveau des prix qui ferait que ça augmenterait, supposons, de 3, 4, 5 % par année durant 3 ou 4 ans, de manière régulière, c'est quelque chose qui cause un saut une fois dans l'année. Et là, la Banque centrale, elle regarde, bien, je veux empêcher une dynamique de s'installer, mais je ne vais pas ajouter au malheur des gens en augmentant mes taux d'intérêt au moment où l'économie est en train de connaître des ratés. Rendre le crédit encore plus difficile à ce moment-là, tu peux aussi bien amener ton pays dans une récession, parce que tu vois comme le Canada, on n'est pas à 3 % qui était prévu avant les événements, par exemple, tarifs, guerre tarifaire et guerre en Iran. On n'est pas à 3, on n'est pas à 2, on est en bas de 1, on est très, très proche. Le moindre événement peut faire que tu verses dans le moins.
Ouais.
Que si tu es rendu dans le moins, puis en plus, tu as du chômage, toi, tu peux être dans une situation comme à l'heure actuelle, au Canada, le taux d'escompte de court terme, c'est 2,25, puis une obligation de 10 ans, elle a dit, moi, c'est si j'ai une obligation, c'est 3,5 % que ça va coûter. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que si l'inflation augmentait, c'est parce que dans un taux d'intérêt de 10 ans, celui qui l'achète, lui, il y a deux parties là-dedans. On appelle ça l'équation de Fisher. Il est en train de dire, moi, je renonce à consommer à l'heure actuelle. Il faut que tu me donnes un taux pour me récompenser. Il faut que tu me donnes deux, supposons. Mais si l'inflation prévue est de 2, il faut que tu m'ajoutes ce 2-là au premier 2, il faut que ça fasse 4. Et si tu me dis que je ne fais pas 4 parce que l'inflation est plus haute puis les taux ne changent pas, bien moi, j'ai renoncé à consommer quelque chose aujourd'hui pour le consommer peut-être dans 2 ans. Si tu me dis que le taux que je veux m'acheter dans 2 ans, je suis aussi bien de l'acheter tout de suite parce qu'elle va coûter trop cher, je vais l'acheter là. Et là, tu as une personne qui renonce à acheter une obligation. Alors, ce qui est curieux, c'est que on s'attache beaucoup à regarder ce que le président de la Banque centrale fait quand il dit « Moi, je suis resté à 2,25 la dernière fois qu'on s'est réunis. Peut-être que si ça se calme, je vais baisser les taux d'intérêt, si le chômage augmente et tout ça. » Mais les marchés obligataires, eux autres disent, ben moi, je peux craindre une hausse de l'inflation, puis je t'envoie un message. J'ai une crainte. Et cette conversation-là qu'on n'entend pas entre les marchés obligataires et la Banque centrale, c'est ce qui compte le plus, parce que ce sont les mieux informés, les acheteurs d'obligations. C'est un tas de personnes informés par les événements, puis ils te laissent savoir ce qu'ils pensent. Et le président de la Banque centrale, lui, il est obligé de tenir compte. Avec juste ses problèmes de court terme. Fait que lui, il est à l'heure actuelle, on pensait qu'on s'en allait vers une stabilisation des taux ou une baisse des taux. Par exemple, aux États-Unis, on s'attendait à baisser les taux d'un quart de 1 % dans l'année, peut-être un autre quart de 1 % l'année prochaine. Et donc, leurs taux à l'heure actuelle qui sont entre 3,5 puis 3,75 à court terme auraient baissé à 3. Mais là, les marchés obligataires envoient des signaux en disant « il y a trop de perturbations ». Si ça dure longtemps, dans le détroit, on envoie un message comme quoi les obligations, on ne veut pas les détenir à un certain taux trop faible. On avoisine les 4,3 et le président de la Banque centrale, au lieu de baisser les taux comme le souhaite Trump, il serait porté à les monter jusqu'à rester stable et autres. Et pour un tas de gens, ça change quelque chose.
Ben oui. Mais non, est-ce que toi, tu vois ça sur ton écran, qu'on pourrait être dans une montée?
Bien, c'est possible si ça ne se calme pas, parce que ce que je voyais, par exemple, pour
parce que je te dirais, là, que tu sais, ce que tu dis là, je sais que toi, tu le dis de façon très cérébrale, puis t'es cartésien, puis tantôt, tu m'énumères, puis tu défiles tout ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, dire ça, oh, ça pourrait monter, on est been there, done that, là. Il y a des gens que ça n'arrivera plus tantôt, là.
Au Canada, je dirais qu'on a plus une chance de taux d'intérêt qui vont rester stables ou baisser parce qu'on est en plus grande difficulté. Aux États-Unis, c'est autre chose. Leur taux, par exemple, leur taux de 10 ans, il est pas à 3,5, il est à 4,3. Leur taux de court terme, il est entre 3,5 et 3,75. Nous, on est à 2,25. On n'est pas dans la même situation.
Okay.
Et ce qu'on voit, par exemple, c'est vraiment que ça semble se calmer à l'heure actuelle, là, tandis que les pires scénarios sur lesquels je lisais en fin de semaine, ça disait Écoutez, si ça restait bloqué pendant 6 mois, cette patente-là, l'ensemble des aliments dans un an, 2 ans, ça pourrait valoir, ça pourrait coûter 10-15% de plus.
Hey, ça, là, alors qu'on a déjà eu, de mémoire, je pense qu'on a déjà eu entre 20-25% d'inflation alimentaire là, depuis 3-4 ans. Si tu ajoutes un 10-15, Et quand on touche à la bouffe, tu sais, quand on dit je suis pas capable de m'acheter une maison, c'est tel que tel, là, c'est grave, mais tu sais, les gens peuvent survivre en appart, puis ils se trouvent de. Mais manger, là, tu joues avec quelque chose qui peut virer mal, très mal.
Puis moi, ce sur quoi, ben, après avoir jasé de ce qui se discutait à l'heure actuelle en termes de scénarios qui pouvaient faire déraper, disons, taux d'intérêt, taux d'inflation, en tout cas, au moins hausse du niveau des prix sur un an et demi, il y a également autre chose. Premièrement, je voulais faire remarquer, c'est pas un phénomène naturel. Vous remarquerez tout le temps que les perturbations, il s'agit de grandes semences qui prennent des décisions folles.
Des conséquences.
Un choc d'offres, on a connu ça la fois d'avant, là. C'est avec les tarifs qui augmentent, comme une augmentation d'impôts. Fait que vous le voyez, ce qui a eu lieu dans la dernière année. Ouais. Mais avant ça, on a eu le COVID. Fermer des circuits de distribution, ce sont des chocs d'offres. Vous augmentez les coûts. Ou vous diminuez des profits. Si je vous
c'est
dis,
toutes des réactions
impôts,
puis des conséquences à des actes qui ont été posés.
Toutes. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Moi, ce qui m'étonne tout le temps, c'est à quel point on ne voit pas que la machine économique, là, si vous laissez l'innovation et les incitatifs faire en sorte que quelqu'un qui veut devenir riche va prendre des moyens pour, mais il en fait profiter, disons, tous ses travailleurs et tous les consommateurs, tout ce qui fait déraper ça, c'est toujours un grand de ce monde qui prend une direction.
Puis je vais ajouter un grand du monde politique, bien souvent
oui,
aussi.
Oui, vraiment.
C'est
une
politique qui joue là-dedans. Là. C'est pas les économistes dans le bureau.
J'ai pas peur de l'égoïste. Il va être le gagnant dans un système qui est compétitif. Il veut juste être le meilleur à tout vous vendre moins cher.
Toi, t'as peur de celui qui veut contrôler ce qu'on fait.
Oui. Autre chose que je voulais apporter, c'est que il y a quand même des bonnes nouvelles, mais aussi des leçons relativement à ça. Il y a une charte qui s'appelle The Chart of the Century qui vous parle de l'évolution du prix de certaines denrées dans le dernier 20 ans, dans le dernier 24 ans surtout, de 2000 à 2024. Puis vous vous apercevez que là où votre... parce que dans le dernier 24 ans, si vous achetez des biens, que ce soit des services de téléphone cellulaire ou encore de la bouffe ou encore des autos ou des services comme les services hospitaliers, ben le salaire des gens a augmenté en général aux États-Unis et vous avez également l'augmentation des biens. Mais on s'aperçoit que les salaires ont augmenté plus que l'augmentation des biens, sauf dans certains secteurs. Et vous vous apercevez que quand il y a des augmentations de prix plus importantes que votre augmentation de salaire, et donc ça commence à vous prendre plus de temps pour acheter le même bien, c'est souvent des secteurs où l'État s'est mis les doigts. Dans les services publics, dans les garderies pour enfants, ici au Canada, c'est les services hospitaliers, c'est les services écoles. Vous vous apercevez que si vous cantonnez au secteur où l'État se présente pas, par exemple, dans le software, vous avez l'équivalent d'une augmentation d'abondance de 765%.
Wow.
Le logiciel que vous achetiez à un certain prix, ramené dans ce que vous pouvez mettre dessus aujourd'hui, ça vous demande tellement moins de temps de travail pour le payer. Puis ça, c'est parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui se battent pour vous le vendre. Ils deviennent productifs, ils innovent. Si vous dites, par exemple, moi, le meilleur exemple au Québec, c'est les garderies. Vous dites, on va avoir un système où il y en a deux filières. Il y a la filière privée, on va lui donner des petites règles, puis il y a la filière publique, mais on ne peut pas tout envoyer tout le monde au public parce que ça coûte trop cher. Puis là, tout ce que vous faites, là, c'est que vous rendez la situation difficile au privé. Là, tu lui dis, va te falloir ça. Va te falloir ça. Des bâtisses de tel genre. Va falloir. Puis là, tu fais augmenter les coûts, puis tu changes les règles sans arrêt. Sans arrêt, tu changes les règles. Puis à chaque fois que tu en perds 10 places dans le privé, tu n'en gagnes pas 10 dans le public. Fait que là, tu es rendu à un prix très élevé parce que tu as juste le bout syndiqué que tu ne peux pas tout mettre dedans parce qu'il coûte bien trop cher la place, mais t'as tué l'autre en même temps. C'est comme le...
Ben oui, parce que c'est de la compétition qui te fait mal paraître. Fait que, on l'élimine.
Fait que, si quelqu'un se disait, est-ce que j'ai, je peux pas, moi, avoir un effet sur ce que va décider un président américain du haut de sa puissance et de sa géopuissance stratégique. Ce que je peux faire, par exemple, c'est dire, sachant que quand les gouvernements mettent le doigt dans quelque chose, ça fait augmenter les...
Ah oui, donner les gens le moins possible, je vois le vert.
Ben oui, je vais voter pour les gens qui veulent de la concurrence. Je vais voter pour ceux qui veulent des hôpitaux privés puis des services privés.
Ah, t'as dit hôpitaux privés, faut mettre fin à l'entrevue tout de suite, c'est terminé.
Alors, méfiez-vous, bonnes gens.
Méfiez-vous, oui, merci. Méfiez-vous des politiciens et de leurs impacts. Hey, c'est un masterclass, ça. Merci beaucoup, wow. Denis. Toujours le fun.
Bye, à prochaine.
Salut, bye. Regarde, Denis, là, tu payes sur le piton. Ça part.
C'est parti.
Et voilà. Parti. Politicien, tassez-vous donc. C'est ça la conclusion. On revient.
Ouais. Ouellette, en direct.
Radio. X.